RCF.
L'Hebdo Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo Région. Nous commencerons tout de suite avec l'actualité de la semaine. Nous évoquerons la pénurie de matériel et de denrées alimentaires que subit le Secours Populaire des Pays de la Loire, dont l'aide de l'Europe pour cette année se fait attendre. Ensuite, nous dresserons le portrait de la mancelle Marlène Schiappa, la nouvelle secrétaire d'État en charge de l'égalité femmes et hommes dans le premier gouvernement du nouveau président Macron. Puis nous évoquerons une initiative intéressante qui aura lieu pour la troisième fois en Vendée, le défi 10 jours sans écran. 3500 collégiens devront remplir ce défi afin de se rendre compte sans culpabilisation de leur dépendance aux écrans et réfléchir à comment se déconnecter. Durant la pause spirituelle, nous évoquerons la motivation d'une jeune Lavalloise partie aider et soutenir les chrétiens d'Orient chassés de chez eux par Daesh en s'engageant pour l'association SOS Chrétiens d'Orient. Et puis enfin, dans la rubrique Si on sortait, nous vous proposerons de découvrir la Loire avec un œil neuf à retrouver en fin de ce magazine. Voilà donc pour le sommaire de cette émission. C'est l'Hebdo Région qui vous est présenté par Fulco Mahony de RCF Vendée en collaboration avec la radio chrétienne des Pays de la Loire.
L'Hebdo Région, l'actu de la semaine.
Et sans plus attendre, nous retrouvons Bastien Lallier de RCF Anjou. Préoccupante, c'est l'adjectif qu'utilisent les bénévoles du Secours Populaire pour décrire la situation actuelle. Alors que l'association organise sa traditionnelle collecte annuelle des Pays de la Loire ce week-end, le contexte est tendu.
Et plus que tendu, la faute à l'administration. Tous les ans, l'association reçoit de l'Europe une assistance matérielle et alimentaire pour les plus démunis. Sauf que l'aide 2017 a du retard, beaucoup de retard. Elle ne sera perçue qu'au mois de septembre alors qu'elle intervient traditionnellement en mai. Claude Levoyer, responsable du Secours Populaire en Pays de la Loire.
Il y a beaucoup de retard dans l'attribution des produits européens, sachant que les produits européens, c'est suivant les années 50, 60, jusqu'à 60, plus d'un peu plus de 60% des produits qu'on distribue. Donc forcément, là, on arrive à un moment où au mois de septembre, on nous annonce l'attribution 2017. Donc ça veut dire que là, on vit encore sur ce qu'il y avait avant. Bon, quand il y a un trimestre de décalage, on arrive à s'en sortir, hein, il n'y a pas de souci. Mais là, on arrive vraiment à un moment où il y a trop de retard et on est obligé dans nos structures d'accueil des 5 départements de réduire. Alors soit la participation, c'est-à-dire qu'on dit aux gens, comme dans le Maine-et-Loire, ben on peut plus prendre de personnes nouvelles, de familles nouvelles, parce qu'on n'a plus les moyens, on ne peut plus leur assurer le minimum de solidarité, c'est-à-dire de leur distribuer des produits pour qu'elles puissent manger, ces familles, ou alors dans d'autres structures comme la Sarthe, où la Sarthe a décidé de diviser par deux l'attribution donnée à chacun, parce que, notamment sur le lait, parce qu'on en manque. Elle donnait jusqu'à encore cette semaine 2 litres de lait par personne pour le mois. Ce qui est pas non plus, quand on sait qu'un enfant qui déjeune le matin, un bol de lait, je veux dire, le litre, il fait 2 jours, c'est pas beaucoup. Et là, par manque justement de lait, on en arrive à dire à ces familles, on ne donnera plus qu'un litre de lait par personne. C'est-à-dire qu'en gros, on dit à la famille, votre enfant, avec le lait de lait qu'on vous donne, il va déjeuner 2 fois dans le mois. Non, mais c'est pas possible. On est obligé de lancer un cri d'alerte là-dessus. On peut pas se satisfaire de ça, même si on sait qu'ils peuvent en avoir aussi dans d'autres structures, mais ça ne suffit pas.
Et le constat est global dans la région. En Mayenne également, la pénurie sévit, particulièrement sur les produits de base, type farine, pâte ou riz. Une situation critique qui génère forcément un mal-être chez les bénévoles. Stéphane Lepage dirige la section du Secours Populaire en Maine-et-Loire.
Quand on arrive dans une association comme bénévole au Secours Populaire, on a cette envie d'être là, d'aider, d'accompagner des personnes qui ont un parcours de vie un peu plus compliqué que soi. Et aujourd'hui, le fait de ne plus être, efficace quelque part, ne plus pouvoir faire ce pour quoi on est venu, c'est compliqué. C'est difficile à gérer moralement, c'est un climat aussi qui commence à peser dans l'association, puisqu'effectivement, nous connaissons bien ces situations-là, nous savons que les gens ont besoin et de dire on ne peut pas, c'est juste insupportable.
L'espoir repose donc désormais sur la collecte régionale de ce week-end, une collecte qui aura lieu ce vendredi et samedi dans 90 magasins et grandes surfaces des Pays de la Loire. L'opération doit être une réussite pour envisager un peu plus sereinement l'avenir, selon Claude Levoyer.
D'habitude, on est sur 120 tonnes sur une collecte régionale. Cette année, on part du principe que si on n'atteint pas les 200 tonnes, ce sera encore plus compliqué. Même si déjà avec 200 tonnes, ce sera sans doute compliqué, mais si on les a pas, je sais pas comment on va faire. Alors je lance aussi un appel parce que je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer ou qui seront pas là. Mais bon, je veux dire aussi à ces gens-là que la solidarité, on peut la faire autrement. On peut la faire aussi par un don financier qui fera que avec cet argent, nous chargeons, nous, la région, de pouvoir le transformer en produit après.
Des produits qui servent actuellement à subvenir aux besoins de 55 000 personnes dans la région des Pays de la Loire.
Merci beaucoup Bastien Lallier. Je rappelle que la collecte régionale a démarré ce vendredi matin, fin de l'opération ce samedi soir. Dans le reste de l'actualité régionale, ce chiffre, 26 450, d'après une enquête de Pôle emploi, c'est le nombre d'intentions d'embauche dans le Maine-et-Loire en 2017, en progression de 18,5%. L'organisme public vient de sonder les entreprises du territoire et bonne nouvelle, le nombre d'établissements qui se voient recrutés cette année augmente lui aussi. Des signes encourageants qui laissent présager une légère reprise de l'activité économique. Dans le département, le taux de chômage est actuellement de 9,1%, supérieur à la moyenne régionale estimée à 8,3%. Nous continuons notre hebdo-région direction la Sarthe maintenant.
L'hebdo-région, rencontre avec...
Et la rencontre de la semaine nous emmène en Sarthe où nous attend Aubry Métro. Aujourd'hui, vous nous présentez Marlène Schiappa, la nouvelle secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le premier gouvernement Macron. Et c'est une mancelle.
Et oui, d'ailleurs, ils ont tous les deux un parcours un peu similaire dans le sens où il y a 3 ans, eh bien, personne ne les connaissait dans le monde politique. Marlène Schiappa, elle est diplômée de communication et beaucoup de gens qui la côtoient vous diront qu'elle est hyper active, tour à tour chroniqueuse, organisatrice d'événements ou encore auteure. Cette militante féministe a publié une 15aine d'ouvrages, mais c'est avec son blog Maman Travail qu'elle s'est fait connaître. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'elle est repérée par Jean-Claude Boulard, le sénateur maire PS du Mans. Il lui propose de rejoindre son équipe lors des dernières élections municipales, elle accepte et devient adjointe en charge à l'égalité femmes-hommes.
Et comment a-t-elle rencontré Emmanuel Macron ?
Eh bien, elle l'a croisé lorsqu'il était encore ministre de l'économie, car comme Laval, la Vendée et Angers, Le Mans cherche à obtenir le label French Tech. Elle nous a d'ailleurs confié que c'est tout de suite qu'elle a été fascinée par Emmanuel Macron. C'est donc très tôt qu'elle rejoint En Marche et devient même la référente en Sarthe du mouvement. Pendant la campagne, elle est de tous les meetings du candidat. On la voit sur des photos, auprès de Brigitte Macron, sur les estrades. Elle devient même responsable du dossier de l'égalité femmes-hommes pour le mouvement. Alors quand Emmanuel Macron l'emporte, eh bien elle a eu du mal à cacher son émotion.
Quelqu'un qui n'a jamais été candidat à rien, qui n'a jamais été élu nulle part, dont on ne connaissait pas le nom il y a 3 ans, qui n'avait pas de mouvement politique il y a 1 an, et en tête de l'élection présidentielle, c'est un moment historique. Les gens, je pense, en ont marre de voir toujours les mêmes têtes, d'entendre les mêmes discours, les mêmes clivages, les mêmes promesses non tenues, et de voir des guéguerres politiciennes et pas de vrais projets enthousiasmants. Je pense qu'on s'est beaucoup moqué de nous au début, en nous caricaturant, parce qu'on était bienveillants, qu'on voulait faire de la politique différemment et rendre les gens heureux, tout simplement. Et je pense que là, le fait qu'Emmanuel Macron soit en tête, ça nous montre que les Françaises et les Français sont prêts pour une France apaisée, bienveillante, heureuse et de progrès. Et
d'ailleurs, elle a pris le train tout de suite après, dans la soirée du 7 mai, pour rejoindre l'équipe d'En Marche sur l'esplanade du Louvre.
Et depuis le deuxième tour, que s'est-il passé pour elle ?
Eh bien, elle a continué à occuper des fonctions importantes au sein du mouvement en participant notamment au choix des 522 candidats de La République En Marche pour les législatives. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas été tendre avec ceux qui venaient des autres partis.
On m'a proposé d'être dans la Commission nationale d'investiture. Je voyais plus ça comme un défi, quelque chose de plus excitant, de contribuer à choisir en tout cas les 577 candidats sur toute la France et d'avoir cette lecture politique et de contribuer au projet. De façon générale, j'allais vous dire, la victoire à son père et la défaite est orpheline. Donc maintenant qu'Emmanuel Macron a gagné et qu'il est président de la République, il est évident qu'il y a un intérêt à se revendiquer du président de la République. On sait qui a monté En Marche en Sarthe, qui était là depuis le début, qui a porté le plan de transformation et qui a la sincérité dans la durée et ne va pas simplement en direction des sondages ou des résultats.
Comment s'est fait son entrée au gouvernement ?
Eh bien, son nom circulait comme d'autres depuis quelques jours, mais elle ne l'a officiellement appris que mercredi après-midi. RCF Le Mans l'a d'ailleurs jointe juste après sa nomination comme secrétaire d'État en charge de l'égalité femmes-hommes.
C'est le président de la République qui m'a appelée en début d'après-midi. C'est des signes, mais on n'est jamais vraiment certain de rien. Surtout, c'est beaucoup de travail qui m'attend pour faire avancer la grande cause nationale du quinquennat du président de la République sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà, là j'ai hâte de pouvoir mettre en place le cabinet, travailler avec les services, avec le Premier ministre et voir comment on fait avancer ça concrètement.
Et comme les élus d'En Marche sont engagés à ne pas cumuler de mandats, eh bien elle devrait, d'ici quelques semaines, abandonner son poste d'adjointe au maire et de conseillère communautaire du Mans.
Merci beaucoup Aubry. Ajoutons que Marlène Schiappa alimente déjà la polémique chez les catholiques. En effet, la nouvelle secrétaire d'État à l'égalité homme-femme s'est illustrée dans une vidéo tournée pour la Fondation Jean Jaurès datant de septembre 2016. Elle explique qu'elle souhaite supprimer les offices religieux diffusés sur le service public le dimanche, les considérant comme une infraction à la laïcité. Je cite « C'est de la théologie et c'est finalement la promotion du fait religieux et de l'oppression des femmes », a-t-elle déclaré. De plus, dans une tribune publiée sur le Huffington Post en juillet 2014, Marlène Schiappa remet en cause la loi de 2004 interdisant le port des signes religieux ostensibles à l'école. Interdire le voile, c'est reconnaître le voile comme un signe religieux, donc reconnaître une religion. Interdire le voile à l'école est donc contraire à la loi de 1905, a-t-elle écrit. Par ailleurs, un peu plus loin dans ce texte, elle estime qu'interdire aux femmes voilées d'accompagner les sorties scolaires de leurs enfants relève ni plus ni moins de l'islamophobie. Autant de propos polémiques que les internautes ont fait ressurgir sur la toile et qui affolent déjà les réseaux catholiques. Affaire donc à suivre. On poursuit cette hebdo région au fil maintenant en Vendée pour y découvrir l'initiative de la semaine.
L'Hebdo Région, initiative.
Et donc direction la Vendée pour parler d'une initiative intéressante qui aura lieu pour la troisième fois dans le département, le défi 10 jours sans écran. Bonjour Fanny Brevet.
Bonjour Foulc, bonjour à tous.
Le département de la Vendée lance pour la troisième année consécutive le défi 10 jours sans écran et ce, dans 12 collèges du département.
3h30, c'est le temps moyen par jour que les adolescents français passent devant un écran, entraînant ainsi de nouvelles addictions. C'est pourquoi le conseil départemental de la Vendée a décidé de proposer le défi 10 jours sans écran à plus de 3500 collégiens. Écoutez les explications du créateur de ce défi, le Québécois Jacques Brodeur.
Dans 12 collèges de Vendée, il y a d'abord eu une rencontre avec tous ces élèves pour comprendre quels sont les impacts de l'exposition des cerveaux humains à des écrans. Il n'y a plus seulement la violence dans les émissions, il y a maintenant une addiction qui est liée à l'utilisation de techniques audiovisuelles extrêmement rapides, où dans Bob l'éponge, par exemple, l'image reste à l'écran 4-5 secondes. On sait maintenant que les dessins animés sont un des facteurs importants de l'augmentation du nombre d'élèves qui souffrent du déficit de l'attention. Ils sont plus capables de se concentrer quand leur maîtresse explique des choses. On a aussi maintenant, chez des adolescents, de plus en plus d'ados, de jeunes, qui sont accros du Facebook ou bien des jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on fait devant tout ça? Ben nous, notre solution, c'est de leur proposer de jouer un match de 10 jours, donc c'est pas aussi long que le Vendée Globe, mais c'est certainement plus long que le 24 heures du Mans. Ça dure 10 jours et on essaye de gagner des points, 6 points par jour, en gardant des écrans fermés. Un point le matin, un point le midi, un point l'après-midi, un point de repas du soir, un point en soirée et un dernier point la nuit quand ton smartphone reste hors de la chambre. Parce qu'on sait qu'il y a maintenant des jeunes, beaucoup de jeunes, qui jouent à Candy Crush en pleine nuit, ou bien qui répondent à leur SMS et qui envoient des textos. Ces 6 points par jour permettent de cumuler aux jeunes, pendant 10 jours, une 60aine de points, au-dessus de 60 points, et ça leur permet de connaître leur degré de dépendance numérique et donc de maîtrise de cette technologie. C'est pas normal qu'un outil soit devenu maître de l'attention de nos enfants, maître de leur temps de loisir. C'est inadmissible. Il faut donc trouver une façon joyeuse d'aborder le phénomène sans culpabiliser et sans condamner ni les jeunes ni leurs parents.
Et ce défi des 10 jours sans écran s'appuie sur une étude réalisée en 2001 par le professeur Thomas Robinson de l'Université de Stanford aux États-Unis.
C'est lui qui nous a appris qu'en diminuant le temps d'exposition à la télé et aux jeux vidéo chez des enfants pendant 10 jours, ça faisait fondre la violence physique et la violence verbale de respectivement 40% et 50%. On rit pas. Sans aucune punition supplémentaire, voilà que dans ces écoles où on fait le défi 10 jours sans écran, on a une réduction substantielle du nombre d'actes ou de paroles violentes. Ajoutez à ça une augmentation de l'activité physique qui fait fondre l'adiposité, le gras subcutané, et ajoutez à ça aussi des données recueillies par Robinson sur la baisse de l'asticotage des parents par les enfants pour se faire acheter des objets annoncés à la télé, on a une nouvelle qui aurait dû faire les manchettes dans tous les journaux du monde entier. On a une nouvelle, voilà, qui donne du pouvoir aux parents.
Et ce troisième défi sans écran s'inscrit dans le schéma enfance-famille mis en place par le Conseil départemental de la Vendée. Il a pour vocation de renforcer les liens entre parents et enfants.
Et le défi 10 jours sans écran qui a démarré donc ce 19 mai en Vendée. Merci Fanny, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Toujours dans cette rubrique initiative de l'étable jusqu'à la table, les rencontres Made in Viande ont démarré mercredi un peu partout en France, un événement organisé par la filière bovine, l'occasion de mieux connaître les professionnels de l'élevage. Dans la région, quelques exploitants participent au rendez-vous et ouvrent les portes de leur ferme au public ce week-end. Pas besoin de réserver, les visites sont gratuites et pour connaître toute la programmation, vous pouvez vous rendre sur le site madeinviande.fr. Et puis la marche pour la vie revient pour la troisième année de suite, elle aura lieu ce samedi soir dans le centre-ville du Mans. Cette fois-ci, elle partira de la place de la République pour longer les quais. Une balade de 3 km pour se parler et échanger sur le cancer, parfois tabou au sein des familles. L'an dernier, 8000 euros ont été récoltés au profit de la recherche contre le cancer. Direction la Mayenne désormais pour y faire la pause spirituelle. Et nous y retrouvons Samuel Pecot de Fidélité Mayenne. Soutenir les chrétiens qui ont été chassés de chez eux en Orient, nous sommes nombreux à penser que c'est primordial de le faire. Mais de là à passer le pas de partir sur place pour leur porter secours, c'est autre chose. Eh bien, une jeune Lavalloise a décidé de le faire. Elle s'est envolée ce jeudi pour la Jordanie avec l'association SOS Chrétiens d'Orient.
Il s'agit de Thérèse Paré, hein, qui est effectivement lavalloise, mais étudiante à l'UCO Angers. Et c'est vrai qu'à seulement 19 ans, elle a décidé de partir en stage pour 3 mois à Amman, la capitale de la Jordanie, même si ses missions l'emmèneront dans tout le pays, hein, puisqu'elle interviendra au sein des camps qui accueillent les réfugiés syriens et irakiens en tant que chargée de communication. Autant vous dire qu'elle n'hésitera pas à nous alerter sur la situation de ces réfugiés et nous sensibiliser encore un peu plus aux besoins de ces chrétiens qui, je le rappelle, ont été chassés de chez eux par les djihadistes de Daesh. Et c'est d'ailleurs suite à une rencontre à Cholet avec un jeune qui s'était lui aussi engagé auprès des chrétiens d'Orient que Thérèse a décidé de partir au Moyen-Orient. Je vous propose d'écouter son témoignage. Elle est passée nous voir en studio quelques heures seulement avant son départ.
En fait, j'ai assisté à une conférence, j'étais à une retraite chez les franciscains de Cholet et il y avait un jeune homme qui parlait et qui racontait son expérience en Syrie. Et du coup, ça m'a donné envie de partir parce que, comme me disait le pape François au JMJ, on peut pas rester dans le canapé et rien faire, regarder la télé, etc. Et du coup, j'ai eu envie de me bouger et d'aller voir ce qui se passe là-bas vraiment.
Et vous avez trouvé une petite annonce alors sur Facebook où on recrutait justement un chargé de communication pour aller aider les chrétiens d'Orient et vous avez répondu.
C'est ça, j'ai tout de suite envoyé ma lettre de motivation, et mon CV, et voilà, j'ai été prise. Enfin, après, ils cherchent en permanence des volontaires, donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à y aller.
Et l'intérêt, c'est que vous allez aider sur place, bien sûr, ces réfugiés, mais en plus, vous allez apprendre, parce que ça s'inscrit dans votre cursus scolaire.
Absolument, en fait, je pars aussi pour valider mon stage de fin d'année, parce que je suis en information et communication, et du coup, je pars en tant que chargée de communication. Donc ça me permet de valider ma licence en fait.
Alors j'imagine que vous ne serez pas que chargé de communication sur place. Qu'est-ce que vous allez faire?
Je pense que je vais aussi aider aider les volontaires à faire leur travail.
C'est-à-dire à accueillir les réfugiés, à les accompagner dans la journée?
Oui, c'est ça. En fait, on fait aussi des activités par exemple pour les enfants. Ou alors, il y a aussi des lieux comme la maison de Beth Mariam qui accueille des jeunes filles qui n'ont pour seul recours que de tomber dans la prostitution parce qu'elles sont pauvres en fait. Et du coup, cette maison leur permet de justement de leur donner un foyer et de leur éviter de tomber dans cette prostitution.
Et alors, vous êtes renseigné sur le pays, sur la Jordanie avant de partir?
Oui, tout à fait. Il y a Petra qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. La Jordanie est de plus un très beau pays. Et en Jordanie, du coup, c'est une royauté. Et il y a la reine Rania de Jordanie qui est très active. Et on peut se dire aussi que dans ce genre de pays, c'est moins ouvert aux femmes. Et pourtant, je trouve ça touchant en fait d'avoir une reine qui est aussi ouverte et rayonnante. Et voilà.
Et sur la sécurité, parce que j'imagine qu'on est un peu inquiète à quelques heures du départ.
Non, en vrai, ça va. Après, le ministère des Affaires étrangères disait qu'il faut éviter les camps de réfugiés syriens et palestiniens, je crois. Pas forcément irakiens. Mais je me dis que on est toujours en sécurité et puis Dieu veille sur nous.
Alors vous dites qu'il faut éviter les camps de réfugiés, mais ça sera votre action, vous serez au cœur de ces camps de réfugiés.
Et en même temps, si on évite tout ce qui est dangereux, on peut rien faire pour la population. Donc à un moment donné, il faut foncer et puis voilà.
C'était Thérèse Paré qui est donc depuis 2 jours en Jordanie auprès des chrétiens d'Orient. Elle est partie avec l'association SOS Chrétiens d'Orient et pendant 3 mois, elle sera en quelque sorte notre envoyée spéciale sur place puisqu'elle témoignera régulièrement à l'antenne de sa mission là-bas.
Merci beaucoup Samuel donc pour ce beau témoignage et puis on vous retrouve pour une nouvelle édition de l'Hebdo de Région la semaine prochaine. Dernière rubrique, on revient dans le Maine-et-Loire pour la sortie de la semaine.
L'Hebdo Région, si on sortait...
La Maison de la Loire rouvre ses portes ce week-end après 1 an et demi de travaux. Ça se passe à Saint-Mathurin-sur-Loire, à 25 km à l'est d'Angers. Un musée tout neuf avec un nouveau nom, Loire Odyssée. Installé sur les berges du fleuve, il propose de découvrir la Loire sous tous ses aspects, sa faune, sa flore, son histoire, sans oublier ses fameuses crues. Visite guidée avec Marion Bastit de RCF Anjou.
Dès l'entrée du musée, des cris d'oiseaux accueillent les visiteurs et avec le bruit de l'eau en arrière-plan, on se croirait vraiment au bord de la Loire. La visite s'articule autour de 3 espaces. Leslie Dibos, chargée de l'animation.
C'est toujours les 3 mêmes thématiques qui sont présentées. Une grande thématique sur le fleuve naturel, sauvage, où on présente ses différents visages, le fleuve en crue, le fleuve à laitiage et les espèces animales et végétales phares qu'on peut trouver en bordure de Loire. Donc ça représente un peu tout le côté naturel du fleuve.
Et pour séduire petits et grands, Loire Odyssée mise sur l'interactivité.
On a vraiment axé sur le côté outils à manipuler, immersion. Donc il y a beaucoup de jeux, il y en a pour tous les goûts, les gens peuvent toucher, c'est accessible à tous les publics, on essaie d'être vraiment dans l'accessibilité, vous pouvez en avoir pour tout le monde.
Exemple avec ces 12 gros cubes de bois couverts de plumes, d'écorce ou de sable.
Ça invite les gens à replacer sur un plateau de jeu, soit des espèces animales, végétales ou des espèces sédimentaires du sol. Donc ils peuvent toucher, ils peuvent lire et ensuite ils essaient de retrouver les bons endroits sur la carte où mettre telle ou telle chose.
Il y a même des paires de lunettes 3D pour voir la Loire comme si on y était.
Alors il y a 2 photos que vous pouvez voir la Loire avant et après en période de basse eau et haute eau. Donc si vous enfilez les lunettes, vous allez voir, c'est la même photo qui est prise au niveau de Saumur. En période de crue et en période d'étiage.
Pour ceux qui ne voient pas, il y a aussi des maquettes de poissons à toucher, un silure, un brochet ou encore une carpe grandeur nature. Il y a aussi des cris d'oiseaux à écouter. Après la Loire au naturel, le 2e espace raconte comment les hommes ont façonné le fleuve.
La Loire est très attrayante, elle fertilise les terres, c'est un axe de communication important. Donc tout le 2e espace explique surtout comment l'homme a pu, au fil des siècles, s'implanter à ses côtés et essayer de vivre sans avoir trop de soucis, crues, inondations. Donc ça explique les aménagements que l'homme a imaginés au fil des siècles pour s'installer dans la vallée.
Et là aussi, le musée fait la part belle au jeu. Cette fois, c'est un puzzle.
Ils sont invités à replacer une photo, enfin un dessin plutôt de la Loire, au bon endroit par rapport à l'échelle de crue. Est-ce que c'est la Loire en été, donc à faible niveau d'eau, ou au contraire, au printemps, là où elle est souvent la plus haute?
Comme la Loire déborde, parfois le 3e espace est consacré aux crues.
Les gens ont oublié, parce que depuis 74 exactement, il y a une station de pompage qui a été installée. Et c'est vrai que depuis que cette station de pompage pompe l'eau de l'Authion, il n'y a plus d'inondation. Et du coup, on oublie que la Loire est un fleuve capricieux qui peut provoquer des choses. Donc on a peur que les gens finalement qui s'installent ici n'aient pas les bons réflexes, les bons gestes en cas de crue exceptionnelle ou de crise. La levée est un mur, c'est pas infaillible, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc nous, on a fait le choix dans le 3e espace du coup d'essayer d'expliquer aux gens qu'il y a des mesures très simples, des gestes faciles à apprendre pour se mettre en sécurité. Et c'est l'outil interactif inédit, la maison inondable, qui permet ceci.
Une radio s'allume et la voix du préfet s'élève.
La levée risque de céder dans les prochaines heures. L'eau a déjà atteint 5,50 m à Saumur. Nous sommes en zone rouge.
Il égrène les gestes à faire en cas d'inondation.
Équipez-vous de bottes et vêtements de pluie. Ça risque d'être humide. Allez couper la vanne de gaz.
C'est tactile. S'il touche les bonnes réponses, ça s'allume sur le panneau que vous avez à droite. Et si tous les voyants s'allumaient, c'est qu'ils ont touché tout ce qu'il fallait. Sinon, c'est qu'il manque quelque chose, donc ils sont réinvités à retenter leur chance, s'ils veulent.
Bonne chance.
Et pour ceux qui connaissent déjà la Loire par cœur, le musée abrite aussi une exposition biennale consacrée au Danube.
Et pour découvrir Loire Odyssée, rendez-vous donc dès ce week-end, les 20 et 21 mai, à Saint-Mathurin-sur-Loire, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Pour fêter la réouverture d'ailleurs ce week-end, l'entrée est gratuite. Et il est l'heure maintenant de se quitter. C'est la fin de cette hebdo région des Pays de la Loire qui vous était présentée par la rédaction de RCF Vendée avec l'aide des rédactions de vos radios chrétiennes des Pays de la Loire. Merci de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro.